Bonjour, soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens en ce 9 mars 2018. Hélène Denis qui vous accompagne. Bon vendredi, Mathieu.
Bon vendredi.
En forme.
Très vivant.
Pas en forme, mais vivant. Ouais. Bon, alors il y a de l'espoir.
Oui.
Est-ce qu'il y a une journée de quelque chose?
Nous sommes la journée de l'audition et la journée mondiale du rein.
Ah oui?
Eh oui.
Merci.
Ben, ça fait plaisir. Et dans l'histoire, que s'est-il passé?
Vous est-ce me direz? Que c'est la journée du silence aussi?
C'est ce que je me dis. En fait, je cherchais une façon de faire la blague, mais vous m'avez battu. Vous m'avez avez sorti de la blague
avant moi. Je vous ai devancé.
Et voilà. Bon. Ben, ça m'arrive des fois.
D'être battu.
D'avoir des silences.
OK, je ne parle plus.
1869, le 9 mars, les régions occidentales entre l'Ontario et les montagnes rocheuses sont cédées au Canada par la compagnie de la baie d'Hudson. 1886, création du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. En 1959, les réalisateurs de Radio-Canada mettent fin à leur grève déclenchée le 29 décembre. 1959, la naissance de Barbie. Elle a 58 ans aujourd'hui.
Ça
elle ne fait
pas
son âge.
Mais là, il y a des nouveaux modèles de
oui,
Barbie.
C'est vrai.
Ça donne un peu d'espoir, oui. Ouais. Ils sont moins dans les critères impossibles. Là.
D'accord, oui, tout à fait.
Ils se sont un peu plus inspirés de modèles, comment dire, réalistes.
Ah oui, OK.
Jusqu'à un certain point.
Je
dois
vous avouer que ce n'est vraiment pas mon domaine d'expertise.
Non, mais j'ai lu un article là-dessus. Moi, okay. J'ai jamais joué à la Barbie. J'ai jamais aimé ça. Puis je m'en vante pas, là. C'est comme
non,
ça.
Non.
OK. Bonne fête Barbie quand même.
Vous en fasse, exactement.
Puis Ken, lui, il a quel âge?
Ken, il doit être vraiment plus jeune. 1961, Moscou annonce avoir lancé puis récupéré le satellite Sputnik 9 avec à bord la chienne Laika. 1976, scénario catastrophe, rupture d'un câble de télégraphique, près de 30 en Italie, 42 skieurs sont tués. 1979, les États-Unis et le Canada interdisent la saccharine, ce succès d'année du sucre s'avère cancérigène chez les rats. En 2000, toujours un 9 mars, le cyclone Helene laisse un bilan de 700 000 sans-abri au Mozambique et au moins 130 morts à Madagascar. En Floride, en 2001, un garçon de 14 ans est condamné à la prison à vie après avoir tué une fillette de 6 ans en imitant des gestes de la lutte burlesque à la télévision. En 2015, l'avion solaire Solar Impulse 2 décolle d'Abu Dhabi pour un tour du monde sans carburant, tour complété le 26 juillet 2016 après une halte forcée de 9 mois à Haïti pour problèmes techniques. Et pour ce qui est des naissances, j'en ai quelques-uns. Signor Vespucci, le navigateur florentin Amerigo, qui est né en 1454, un 9 mars. Louis Gargarine, voyons, ça va bien aujourd'hui.
Yuri,
c'est ça, ouais. Je me disais. Je me dis peut-être que j'ai oublié de mettre une lettre majuscule, mais non. Yuri Gagarine, premier homme en orbite terrestre, qui est né en 1934. L'ancien premier ministre québécois, Bernard Landry, est aussi né un 9 mars.
Ah oui?
Et Juliette Binoche, l'actrice française,
oui.
Née en 1964. Un 9 mars.
Bernard Landry a quel âge aujourd'hui?
Bonne question, 1937.
Bon, alors il a 81?
Oui. Oui, nous sommes en 2018.
J'ai
vérifié ce matin dans mon agenda.
Monsieur Landry.
Exact. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai sur mon petit papier que je mets de côté pour poursuivre l'émission avec vous.
Alors, pour votre information et aussi pour l'information de tous les auditeurs, vous aviez raison, Mathieu, Ken est plus jeune que Barbie.
J'ai pris une chance.
Il est né en 1961
ah.
Et Barbie est né en 59, comme vous le disiez si bien.
Bon, bon anniversaire au couple mythique.
Oui, mais Ken, ce n'est pas son anniversaire aujourd'hui.
Non, mais par extension, c'est...
Ah, ils vont peut-être fêter ensemble.
Oui, peut-être. sont toujours ensemble, c'est bien connu.
Oui, alors on y va avec un peu plus de sérieux. À la une de la presse, frais accessoires dans les cliniques, des frais illégaux toujours facturés. Plus de 400 plaintes ont été retenues depuis l'abolition des frais accessoires il y a un an. Place d'armes de Montréal, controverse autour d'une plaque. Corée du Nord, surprise, point d'exclamation, une rencontre Trump-Kim se dessine. Patrick Lagacé, sa chronique s'intitule « Je déménage à Hampstead ». La presse à Barcelone, Stroll veut se mesurer à Stroll ou Stroll veut se mesurer à Stroll. Le pilote québécois est optimiste mais reste réaliste à la veille de la nouvelle saison de F1. La Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, avait reçu au 31 décembre dernier 5091 plaintes de patients convaincus d'avoir payé des frais accessoires malgré l'interdiction en vigueur depuis le 26 janvier 2017. Parmi les 4200 demandes que nous avons pu traiter et analyser jusqu'à maintenant, 10 % se sont avérées fondées. Environ 420 patients seront donc remboursés, explique Caroline Dupont, porte-parole de la Régie. Les montants facturés illégalement totalisent plus de 100 000 soit environ 238 $ par plainte en moyenne. La RAMQ réclame ensuite ces sommes aux médecins fautifs qui peuvent contester ces réclamations. Quels frais sont interdits, lesquels sont permis? Interdits, les frais accessoires, ouverture de dossier, changement de pansement, retrait de points de suture, test d'urine, prise de sang, agents anesthésiques, vaccination des enfants, échographie, goutte oculaire, vasectomie, pose d'un stérilet, sauf pour tous ces exemples quand des médecins ne sont pas affiliés à la RAMQ. Permis, les frais administratifs, tarifs suggérés par la FMSQ, formulaire de la SAAQ pour le permis de conduire, rapport médical pour assurance invalidité, rapport médical pour régie des rentes du Québec, examen pré-emploi, transport d'échantillons biologiques, rendez-vous manqué, renouvellement d'ordonnance sans évaluation médicale, photocopie, première page, puis 50 cents par page. Revenu Québec sévit contre les terroristes de la paperasse, c'est entre guillemets. Une médecin de Québec qui avait décidé de ne pas payer un sou d'impôt est devenue la première adepte des Free Men on the Land, condamnée à dédommager le fisc pour lui avoir fait perdre son temps avec des arguments, à son avis, loufoques. Christine Banville, une omnipraticienne de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, touchait sans problème des centaines de milliers de dollars de l'État en honoraires, mais avait décidé qu'elle ne devait rien lui reverser. Son cas est revenu devant la cour d'appel lundi et sa condamnation date de l'automne dernier. La juge au dossier s'est dite troublée par la possibilité qu'une professionnelle de la santé comme Christine Banville puisse adhérer à des idées qui n'ont aucun sens comme celles des Free Men on the Land, aussi appelées citoyens souverains. La Dr Banville a été condamnée à dédommager le fisc québécois à hauteur de 7 500 $ en plus de devoir payer presque 150 000 $ en impôts provinciaux impayés pour les années 2014 et 2015. Le comportement de la médecin remet en cause le fonctionnement même de l'État, une situation particulièrement inexplicable vu que sa rémunération provient de ce même État, a écrit la juge Geneviève Cotnam de la Cour du Québec. Le visage de Viola Desmond, grand symbole canadien de la lutte pour les droits des Noirs, apparaîtra sur le prochain billet de 10 $. Ce sera la première fois au pays que le portrait d'une femme, à l'exception de la reine, orne une coupure de la circulation courante. La Banque du Canada a choisi la Journée internationale des femmes pour dévoiler le billet au design complètement renouvelé. Qui est Viola Desmond, femme d'affaires accomplie de la Nouvelle-Écosse? Elle a défié l'autorité le 8 novembre 1946 en refusant de quitter une section réservée aux Blancs dans un cinéma. La jeune femme a été incarcérée, reconnue coupable et condamnée à une amende pour son geste de désobéissance civile. Son procès a été l'une des premières contestations judiciaires connues soulevées par une femme noire au Canada pour cause de ségrégation raciale. Le geste de Viola Desmond est demeuré dans l'ombre de l'histoire pendant plus de 50 ans, jusqu'à ce que son portrait figure sur un timbre en 2012. Montréal a annoncé l'été dernier qu'une rue de l'arrondissement de La Salle porterait son nom. Viola Desmond a fait ses études dans la métropole. Des membres de sa famille, dont sa sœur Wanda Robson, habitent toujours à Montréal. Et c'est à la fin de 2018 que le nouveau billet de 10 $, de nouveau en polymère, sera mis en circulation. Un billet à la verticale, une bonne idée, c'est le premier billet disposé à la verticale à être émis au Canada. Ottawa explique que cette orientation permet de présenter une image plus grande de Mme Desmond, en plus de distinguer la nouvelle coupure des autres en circulation. C'est un changement étonnant, dit Marie Remond, designer graphique agréée et candidate au doctorat à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Les billets de banque sont un fort symbole d'identité nationale, souligne-t-elle. Bloc québécois, Martine Ouellette vit dans le déni et l'aveuglement face à la crise qui plombe son parti, martèle ses opposants. La chef du Bloc québécois a proposé hier d'organiser un référendum sur la meilleure façon de promouvoir l'indépendance, mais elle a refusé dans la foulée la tenue d'un vote de confiance sur son leadership avant 2019. Flanquée des trois députés restants du Bloc et de la vice-présidente du parti, Martine Ouellette a présenté hier une proposition en trois étapes, dans l'espoir de dénouer l'impasse. Elle propose de devancer d'un mois, à la mi-avril, la tenue du prochain Conseil général du Bloc et veut suggérer à cette occasion une consultation référendaire auprès des 20 000 membres de la formation politique. La question de la meilleure stratégie à adopter pour promouvoir l'indépendance est au cœur de la crise qui ébranle le Bloc. Excédée par le caractère intransigeant et la vision dogmatique de Martine Ouellette, 7 des 10 élus du parti ont claqué la porte la semaine dernière pour siéger en tant qu'indépendants à Ottawa. Ils excluent tout retour au sein de la formation tant que Mme Ouellette sera à sa tête. En moyenne, les vraies informations mettent 6 fois plus de temps que les fausses nouvelles à atteindre 1500 personnes sur Internet, d'après une étude publiée hier dans la revue Science. Selon la même étude qui porte sur près de 126 000 informations véhiculées en ligne de 2006 à 2017, les internautes eux-mêmes sont davantage responsables de cette rediffusion rapide des fake news que les bots, B-O-T-S. Wagdo, pour souligner à leur façon la Journée internationale des femmes, une centaine de restaurants McDonald's aux États-Unis ont renversé leurs arches dorées pour convertir le célèbre M en W. Des emballages et casquettes d'employés portaient aussi le logo renversé hier. L'entreprise en a profité pour rappeler dans un communiqué que 6 restaurants sur 10 étaient dirigés par des femmes. W pour woman, évidemment. Hey, it's been a while. I was wondering how you've been with the kids.
How's your wife? Oh. 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 I do sometimes have memories.
Béris et sa chanson Wondering.
En une du devoir, une grande photo sous laquelle on lit la ministre de la Condition féminine, Mariam Monsef, qui est photographiée dans la bibliothèque du Parlement. Journée internationale des femmes, équité salariale, le projet inachevé. Ottawa promet de légiférer avant la fin de l'année, mais c'est le projet de loi qui fera foi de la volonté réelle du gouvernement. L'équité salariale stimulera l'économie et profitera à tous, dit Mariam Monsef. Harcelées, des femmes obtiennent justice. Un homme avoue son crime et la couronne réclame son emprisonnement. Le Bloc tiendra un référendum. Martine Ouellet veut sonder les membres sur l'article 1 du programme du parti, mais pas sur son leadership. Donald Trump accepte de rencontrer Kim Jong-un. La chronique de José Blanchette, Zeitgeist, un trio d'enfer contre les paradis. On parle ici de paradis fiscaux. Une brise d'espoir a soufflé sur la journée du 8 mars. Un groupe de chercheuses féministes estime avoir été enfin entendues dans une cause de harcèlement criminel où un homme s'est servi de photos de Marc Lépine pour les menacer. Jugé potentiellement récidiviste, l'homme qui a plaidé coupable demeura incarcéré jusqu'à ce qu'il connaisse sa sentence le 15 mars prochain. La couronne a demandé le maximum pour ce type d'accusation, soit 6 mois de prison ferme. Le 23 juillet 2016, Sandrine Ricci s'aperçoit que la page Facebook du Réseau québécois d'études féministes qu'elle coordonne est la cible d'un harceleur qui publie sous un faux profil Facebook près de 20 liens vers des photos de Marc Lépine et des mots-clics « Je suis Marc ». Prise de peur, elle en parle aux administratrices du groupe et porte plainte à la police dès le lendemain. L'enquête s'enclenche. Peu de temps après, une autre plainte envers le même agresseur est déposée par l'administratrice du groupe Facebook de la campagne « Sans oui, c'est non » contre les agressions sexuelles sur le campus. Un an plus tard, le 12 septembre 2017, Alexandre Chebert, un résident de Gatineau, a plaidé coupable à des accusations de harcèlement criminel dans les deux cas. Atteint de troubles de santé mentale, l'homme n'a pas d'antécédents judiciaires. Au palais de justice, dans le groupe d'universitaires venus épauler Mme Ricci, les questions fusaient de toutes parts. Pourquoi les plaintes pour ce genre de crimes haineux envers les femmes ne sont pas toutes retenues? À la division crimes, prévention et sécurité urbaine du SPVM, la lieutenante détective Lynn Lemay assure que des enquêtes sérieuses sont menées pour chacun des signalements qui constituent des crimes haineux au sens du code criminel. Mais elle admet que les enquêteurs manquent parfois de temps. De l'avis de Maître Simard, si la plainte de Mme Ricci s'est rendue jusqu'à l'étape des tribunaux, c'est parce que le dossier, dans ce cas-ci, était complet et convaincant. Il a donc été plus facile pour un procureur de le défendre devant un juge. La chercheuse de l'UQAM aimerait inciter les femmes à dénoncer elles-mêmes, ayant parfois tendance à minimiser cette cyberviolence. On est dans une logique de banalisation du sexisme et de la misogynie, tant c'est omniprésent dans la société. L'expression « troll » elle-même contribue à minimiser. Les trolls, ce sont de petites créatures souriantes et grimaçantes, mais elles ne sont pas très menaçantes, souligne-t-elle avant d'ajouter « Je veux envoyer le message aux femmes et aux féministes qu'on peut s'opposer à ça, et envoyer le message aux hommes et aux prédateurs de ce monde que l'impunité, ça va faire. » Le gouvernement Couillard affirme que les coûts pour restaurer l'habitat des derniers caribous de Val-d'Or sont trop élevés par rapport à la probabilité de sauver cette population de l'extinction. Ils sont donc condamnés à disparaître, a annoncé jeudi le ministre de la Faune, Luc Blanchette. Réagissant aux propos du ministre, Nature Québec a dénoncé la décision du gouvernement. Le ministre Blanchette rejette d'emblée les scénarios qui donneraient une chance de survie à la population des caribous de Val-d'Or et les condamne à une extinction à très court terme, a déploré le directeur général de l'organisme écologique, Christian Simard, l'organisme écologiste Christian Simard. La situation des caribous de Val-d'Or a attiré l'attention au printemps 2017, lorsque le gouvernement Couillard a annoncé son intention de déménager les derniers individus vers le zoo de Saint-Félicien. Cette décision qui avait été prise alors que Québec ne détenait pas d'études de viabilité sur cette population a soulevé une vive controverse. Le zoo de Saint-Félicien a fait avorter le projet en s'en dissociant. Des femmes d'un peu partout dans le monde ont profité jeudi de la Journée internationale des femmes pour réclamer plus d'égalité, plus de respect et plus d'autonomie. Des manifestantes ont déclenché une grève de 24 heures en Espagne pendant que des foules descendaient dans les rues de Manille, de Séoul et de New Delhi, notamment. Et toujours pour souligner la Journée internationale des femmes, des dizaines de personnes se sont rassemblées jeudi dans le cadre de la 17e manifestation du 8 mars dans les rues de Montréal. Les manifestantes ont notamment salué le courage des femmes qui ont dénoncé les agressions et le harcèlement sexuel grâce à la vague « Moi aussi ». Un peu plus tôt dans la journée, le collectif 8 mars s'est réuni devant les bureaux du ministère de la Santé et des Services sociaux pour réclamer le respect des droits des femmes, une hausse du salaire minimum et l'arrêt des discriminations envers les femmes autochtones et immigrantes ont notamment été revendiquées. L'annonce est aussi inattendue que spectaculaire. Le président américain Donald Trump a accepté de rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong-un d'ici fin mai, a affirmé jeudi un responsable sud-coréen. Ce rebondissement impensable, il y a quelques semaines, fait suite à une rencontre entre une délégation sud-coréenne de haut niveau et le maître de Pyeongchang après deux années de très vives tensions liées au programme nucléaire et balistique nord-coréen. Le lieu d'une telle rencontre entre le 45e président des États-Unis et le leader nord-coréen, qu'il a par le passé qualifié de fou, n'a pas été précisé. M. Chang a par ailleurs précisé que Kim Jong-un s'était engagé à œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et avait promis de s'abstenir de tout nouveau test nucléaire ou de missile. Simplement préciser que lorsque je parlais de M. Chang, il s'agissait du conseiller national sud-coréen à la sécurité. On se retrouve après la pause et la chanson.
En regardant le fleuve, je ne cherche pas d'épreuve pour appuyer les midi. M'annonçant mon déclin qui viendra de ta main ou d'un appendice bien pire. Je ne chasse pas les papillons, plutôt les illusions. Tu sais si bien mentir. Disparaîtrait quand la lune sera pleine. J'suivrai la marée, plus jamais les sirènes. Je ne serai plus loin. En attendant le train, je ne m'en lave pas les mains. J'assumerai tous mes crimes. Si tu brailles de ta lisse, si tu brouilles toutes les pistes, les pères seront minimes. Je ne veux plus être celui qui t'aidera à tout détruire. Je te reverrai au bord de l'abîme. Je disparaîtrai. disparaîtrait, je ne serai plus lui-même. Je disparaîtrai, je disparaîtrai, je disparaîtrai.
Frédéric Garicomo et sa merveilleuse chanson « Je disparaîtrai ».
À la une du Journal de Montréal de ce 9 mars 2018, prof épuisé, cours pas préparé, enfant anxieux, remplacement obligatoire. Les enseignantes Chantal Lauzon, Julie Fournier et Claudine Malouin en ont assez d'être forcées de remplacer leurs collègues absents à cause de la pénurie de personnel. La présidente avoue des « mauvaises décisions », entre guillemets. Les médecins spécialistes renoncent au forfait jaquette. Saint-Gelais et Hamelin, la fin du couple chéri. Marianne Saint-Gelais et Charles Hamelin ont annoncé hier qu'ils se séparaient après 10 ans de relation amoureuse. Rémunération des médecins, ça prend une révolution, c'est la chronique de Mario Dumont. Un chauffard en liberté après 3 mois en prison. Le bon comportement de l'homme lui a valu de sortir au 6e de sa peine. Je suis sous le choc. Cette décision de le remettre en liberté ne montre pas le bon exemple. Il a brisé des vies, s'indigne la voix déçue, Karine Lassalle, une des victimes de Mathieu Allard. Allard avait écopé de 18 mois de prison pour une violente collision sur l'autoroute 720 à Montréal survenue en mars 2015. Le conducteur de 30 ans avait pris part à une soirée bien arrosée quand il a voulu continuer la fête au centre-ville. Il a choisi de s'y rendre en voiture malgré une mise en garde d'une personne présente. C'est donc avec 3 passagers à son bord qu'Allard a pris le volant en conduisant à tombeau ouvert jusqu'à 2 fois la limite de vitesse permise. Il a voulu prendre une sortie à 84 km à l'heure alors que la limite recommandée était de 25 km à l'heure quand il a percuté un muret. Des experts ont estimé qu'Allard avait entre 94 mg et 152 mg d'alcool par 100 ml de sang, tandis que la limite légale est de 80 mg. Vous avez fait fi de la sécurité d'autrui et avez délibérément mis en péril des vies humaines, a noté la Commission québécoise des libérations conditionnelles dans un rapport rédigé cette semaine. Leur vie et celle de leurs proches ont été changées à tout jamais. Karine Lassalle s'en était sortie avec des blessures mineures, tandis qu'une autre passagère a eu l'intestin perforé. Robert Harel a eu encore moins de chance car à 31 ans, il ne peut plus marcher ni parler. Il a été placé en CHSLD, où il pourrait rester jusqu'à la fin de ses jours. Le forfait jaquette des médecins disparaîtra. La présidente de la Fédération des spécialistes en a fait l'annonce hier dans un texte. Notre bureau d'enquête révélait en janvier que cette prime permet aux spécialistes de toucher $65.95 chaque fois qu'ils enfilent gants, masques et jaquettes pour voir un patient isolé. Méconnue du public, elle avait été consentie en 2009 dans le cadre d'augmentation de salaire alors que Gaétan Barrette était président de la Fédération. Dans son éditorial du magazine Le Spécialiste, distribué hier aux membres de sa fédération, Diane Francoeur laisse entendre que la nouvelle entente entre les médecins spécialistes et le gouvernement Couillard annulera le forfait Jaquette. Nous allons également revoir certains écarts insolites résultant de mauvaises décisions. Adieu la célèbre Jaquette, écrit-elle. Dépannage obligatoire à l'école, cours moins bien préparés, enfants stressés par la succession de remplaçants, surcharge de travail. Des enseignants qui doivent régulièrement faire du dépannage obligatoire pour pallier la pénurie de profs en plus de gérer leur propre classe lancent un cri d'alarme. Presque tous les matins, Claudine Malouin se croise les doigts quand elle entre à l'école. « Il ne faut pas qu'il y ait du dépannage obligatoire aujourd'hui, faut pas », se répète-t-elle. Trois enseignants du primaire de la Commission scolaire des Trois-Lacs, qui couvrent notamment Vaudreuil-Dorion en Montérégie, ont accepté de témoigner du manque de personnel qui force les profs à faire du temps supplémentaire et les maintient dans un cercle vicieux d'épuisement. Cette pénurie se traduit non seulement par des difficultés à recruter des enseignants qualifiés, mais aussi des suppléants, explique José Scalabrini, de la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui représente plus de 65 000 professeurs à travers la province. Les banques de suppléants sont vides cette année, c'est pire que jamais. On reçoit des appels de partout, Gaspésie, Lanaudière, etc. Il arrive donc qu'une école n'ait trouvé personne pour assurer un remplacement de dernière minute et se tourne vers les enseignants réguliers pour effectuer du dépannage. Ceux-ci vont remplacer pendant que leurs propres élèves suivent des cours d'éducation physique ou de musique, par exemple. Les enseignants doivent donc gruger dans le temps qui sert à planifier leurs cours, corriger, appeler des parents ou encore à rencontrer les professionnels de l'école. Les profs rencontrés ont beau être habitués à apporter du travail à la maison, la charge de travail faite en dehors de l'école augmente. « Mes enfants, mon conjoint, tout le monde écope », résume Julie Fournier. Le système de dépannage était autrefois utilisé de façon exceptionnelle, mais là, c'est rendu quotidien, remarque-t-elle. Les trois enseignantes avouent se sentir coupables de ne pouvoir pas toujours donner le meilleur à leurs élèves par manque de temps. Alors, on a la photo de Chantal Lauzon, Claudine Malouin et Julie Fournier qui travaillent dans trois écoles différentes de la région de Vaudreuil-Dorion. Elles ont préféré taire le nom de leur école pour ne pas nuire à leurs élèves. Des enseignants craignent que la pénurie entraîne encore plus d'épuisement et ne crée ainsi un cercle vicieux, semblable à ce que vivent les infirmières dans le milieu de la santé. Non seulement on manque de relève, mais on tombe en maladie. On nous en demande toujours plus, mais on reste humaine, dit l'enseignante Julie Fournier. Le Québec pourrait perdre la guerre du sirop d'érable. Les importations de sirop d'érable au Québec, qui viennent principalement des États-Unis, sont en explosion avec une année record en 2016 de 20 millions de dollars. Un constat qui inquiète Alexandre Moreau, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Pourquoi importe-t-on autant? Entre autres parce qu'au Québec, les producteurs se voient attribuer un nombre maximal d'entailles pour récolter l'eau d'érable. Ils ont donc une quantité déterminée pour la vente en gros et par intermédiaire, épicerie, dépanneur, restaurant. Le surplus doit passer par l'un des 60 acheteurs autorisés par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec qui vendent et exportent le produit. Ce n'est pas un système qui est viable dans une économie mondiale. Les producteurs à l'extérieur du Québec n'ont aucune contrainte. Pendant qu'on limite la production, ils ont le champ libre et nous volent des parts de marché. La tendance est inquiétante, soutient Alexandre Moreau. Le directeur de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec qualifie de déplorable la vision partielle de la situation exposée par l'Institut économique de Montréal. Il y a 675 nouvelles entreprises acéricoles depuis 10 ans. Alors qu'en agriculture, on parle plus souvent d'un recul du nombre de fermes. Depuis 2000, il s'est ajouté plus d'entailles au Québec qu'il y en a eu au total aux États-Unis, soutient Simon Trépanier. Et on a une photo où on peut lire « Enfin, une autre voie ». Un organisme indépendant explique avec des chiffres véridiques ce qu'on essaie de démontrer, dit Nathalie Bombardier, acéricultrice. Daniel Gaudreau et Nathalie Bombardier aimeraient vendre le sirop provenant de leur érablière. Comme ils l'entendent, sans contingent, le couple de l'Estrie est poursuivi par la Fédération pour ne pas avoir respecté les normes. Alors, un petit peu plus tôt, Mathieu nous parlait de Barbie, qui célèbre ses 59 ans aujourd'hui. Les nouvelles femmes inspirantes de Barbie. L'artiste mexicaine Frida Kahlo, l'aviatrice américaine Amelia Earhart et la mathématicienne Katherine Johnson, popularisées par le film Les figures de l'ombre, ont désormais leur Barbie. Mattel a dévoilé cette semaine une nouvelle série de la controversée poupée dans un nouveau coup de marketing visant à remédier au ralentissement de ses ventes. La série « Femmes inspirantes » comprend également 6 sportives de haut niveau, une réalisatrice Patty Jenkins de Wonder Woman, une femme qui défend la vie sauvage, 2 designers, une journaliste, une actrice, la chef française Hélène Darroze et une danseuse. Québec va bientôt donner de nouveaux pouvoirs aux ambulanciers et aux policiers afin qu'ils puissent poser des gestes cruciaux pouvant sauver des vies. Ils pourront désormais utiliser des outils pour intervenir sur un patient dont les voies respiratoires sont bloquées pour ensuite retirer ce qui pose problème. Ils seront aussi autorisés à faire l'entretien de certains dispositifs médicaux, ce qui sera utile lors du transfert de patients. Les paramédicaux vont pouvoir transporter les patients, assurer la surveillance clinique, sans qu'une infirmière soit nécessaire pour effectuer le transport entre 2 établissements, a expliqué Diane Véro, directrice chez Urgence Santé. Les policiers pourront aussi paqueter la plaie avec des pansements sans l'accord d'un médecin.
Visiter mille et un visages, et que j'aurai compris pourquoi j'ai si froid lorsque la nuit tombe. Quand j'aurai visité la mort et vaincu les monstres passés, réparé toutes ces erreurs commises sans vouloir blesser, alors je chercherai encore, encore, encore. Quand j'aurai goûté les saisons, appris les langues ancestrales, dormi sous presque tous les ponts et compter 100 milliards d'étoiles, quand les automnes auront chassé les amertumes de l'été, quand les hivers seront moins longs et les printemps prématurés, alors je chercherai encore, alors je chercherai encore, encore. Je chercherai pour débusquer ce qui accroche, ce qui m'énerve, ce qui écorche, tout ce qui cloche. Insatisfait d'être trop bien, d'avoir enfin le ventre plein, l'esprit libre, enfin. 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 Quand j'aurai parcouru les mers et combattu Poséidon, bravé tempêtes et tornades, seule armée de quelques hommes sont. Quand j'aurai redressé les torts de ma vie de vieux banlieusard, quand j'aurai bu jusqu'à plus soif et démystifié les yeux noirs, alors je chercherai encore, alors je chercherai encore, encore. Je chercherai pour débusquer ce qui accroche, ce qui m'énerve, ce qui égorge, tout ce qui cloche. Insatisfait d'être trop bien, d'avoir enfin le ventre plein, l'esprit libre. Enfin, enfin, enfin.
débusquer ce qui accroche, ce qui m'énerve, ce qui écorche, tout ce qui cloche. Insatisfait d'être trop bien, d'avoir enfin le ventre plein, l'esprit libre, enfin.
Il s'appelle Phil Boucher et sa chanson, c'est « Je chercherai ».
Les journaux régionaux dans le Nouvelliste, François Aude, « S'ouvrir à l'autre ». Trois-Rivières, le comédien Vincent Guillaume Otis est devenu une figure familière. Grâce à Série Noire, d'abord, mais surtout à District 31, non seulement entre-t-il dans des centaines de milliers de foyers quotidiennement, mais il fait soupirer de désir nombre de téléspectatrices. Or, si sa carrière n'a jamais semblé aussi fructueuse, il est un autre côté de l'artiste qu'on connaît moins. Il est de nouveau le porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui aura lieu du 11 au 17 mars. L'implication n'est pas banale quand on sait tout ce qu'une émission quotidienne comme District 31 peut exiger d'un acteur, surtout quand il en est un des personnages principaux, présent dans pratiquement toutes les émissions et au centre de la plupart des intrigues. Il y a le tournage, déjà, mais aussi la mémorisation de dizaines de pages de texte pour chaque épisode. « J'ai un horaire de premier ministre », rigolait Otis en entrevue avec le Nouvelliste, lors de la cérémonie officielle de lancement de la Semaine de la déficience intellectuelle mercredi dernier à Montréal. L'attachement du comédien à la cause ne peut faire de doute quand on constate qu'il occupe cette fonction depuis 2011. Sa sensibilité tient au fait qu'il la connaît intimement, ayant un frère souffrant de déficience intellectuelle. « Mon frère m'a beaucoup donné », admet-il volontiers. Si je suis sensible aujourd'hui à la valeur de justice sociale, c'est beaucoup à lui que je le dois. Ce sont des choses qui m'ont été inculquées jeune, que je le veuille ou non, mais en vieillissant, j'ai pris conscience de la grande richesse que ça représente. Je ressentais profondément l'injustice en voyant mon frère se faire ridiculiser ou bardasser, et je ne comprenais pas pourquoi ça arrivait. Je peux aussi dire qu'il m'a appris très jeune le sens des responsabilités. Je ne l'ai pas élevé, bien sûr, ce sont mes parents qui l'ont fait. Mais à l'école, j'étais là, comme grand frère. Ça m'a fait gagner rapidement en maturité. Lancé sur ce sujet, ce père de trois enfants, né de son union avec la Shawinigaise d'origine Evelyn Gelina, est décidément intarissable et d'un enthousiasme que son débit rapide trahit. Si je suis acteur, je pense que ce n'est pas étranger à la présence de mon frère dans ma vie. Un acteur est quelqu'un qui se nourrit des gens autour de lui. Ça prend un intérêt naturel envers l'autre et le monde dans lequel on vit. Comme bien des artistes, il est fasciné par l'extraordinaire pureté dont font preuve les gens souffrant de déficience intellectuelle dans leur expression artistique. C'est vrai que comme acteur, on est constamment à la recherche d'une certaine pureté de l'émotion qui donne de la vérité à ce qu'on joue. Or, ces gens l'ont naturellement. Ils ont une spontanéité extraordinaire. À l'école secondaire, j'ai été moniteur d'improvisation auprès de cette clientèle et j'ai tellement grandi là-dedans. C'était un gros défi, mais les gratifications étaient formidables. Les gens me félicitent pour mon implication, mais il ne faut pas se tromper. Je vais chercher beaucoup là-dedans. On ne peut s'impliquer aussi intensément sans être douloureusement conscient des besoins énorme dans un secteur où l'aide gouvernementale s'est effritée au cours des dernières années. Depuis 2011, j'ai vu une évolution positive de la situation parce que je trouve qu'on en parle davantage et que la sensibilisation est importante. Par contre, Annick Larose, la directrice générale de la SQDI, me dit souvent que sur le terrain, il suffit de 5 secondes pour détruire des années d'efforts. Une réflexion, une phrase mal placée par une personnalité publique et il faut tout recommencer. C'est vrai aussi pour les mauvaises décisions gouvernementales. Le gouvernement Couillard ne fait rien pour aider les OSBL et les organismes communautaires. Les intervenants se débrouillent avec rien. Je vois de l'ouverture de la part du public, mais il faut aussi des moyens financiers et là-dessus, il y a d'immenses lacunes. Pour tout un chacun, le défi de l'intégration des gens atteints de déficience intellectuelle tient à des choses simples, mais plus difficiles à réaliser qu'on ne le croit. Il faut simplement faire preuve d'ouverture, plaide Vincent Guillon-Motis. Il faut apprendre à les connaître. Le manque de connaissance de l'autre crée la peur et l'éloignement. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle sert à ça. De nombreuses activités sont prévues dans l'ensemble de la province. On peut en savoir davantage en consultant le site www.déficienceintellectuelle.org. Signe que le printemps est sur le point de s'installer, le déglaçage du Saguenay débutera le 12 mars. C'est donc dans le quotidien Annie-Claude Brisson. Il faudra compter près d'une semaine afin que la garde côtière canadienne complète le cassage du couvert de glace qui s'étend de Petit-Saguenay jusqu'à la baie. Le succès et la durée de l'opération de déglaçage sont conditionnels aux conditions climatiques du Saguenay. La manœuvre, qui a lieu année après année, est réalisée afin d'éviter que d'immenses blocs se détachent du couvert de glace. Ces morceaux de banquise à la dérive pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Ils risqueraient de heurter les traversiers qui accueillent des passagers et des véhicules contenant parfois du pétrole et des matières dangereuses à l'entrée du Saguenay, précise le surintendant du déglaçage à la garde côtière canadienne Stacy Dufour. L'hiver en cours ne semble pas être différent de ceux des dernières années. Les mesures faites dernièrement confirment une épaisseur de glace se situant aux alentours de 75 cm, ce qui est qualifié de normal à ce temps de l'année par le surintendant du déglaçage à la garde côtière canadienne. Celui qui fait carrière dans ce type d'opération depuis une quinzaine d'années assure que les résultats sont similaires année après année. Dans Le Soleil, Marc Allard, des camps de jour sexistes, point d'interrogation, Julie Fortier a reçu un dépliant de camp d'été dans sa boîte postale. Comme elle en cherchait justement un pour son fils qui aura bientôt 6 ans, elle ne l'a pas mis dans le bac à recyclage. En regardant la brochure de Camp Académie de Québec, elle a été choquée par la description des camps 100% garçons et 100% fillettes destinés aux enfants de 4 à 6 ans. La brochure décrit le premier réservé aux gars comme un programme parfait pour toi qui aime les activités au grand air, les activités manuelles et les nouvelles découvertes. Le deuxième, réservé aux filles, est présenté comme un programme parfait pour toi qui adore la création de bijoux, les bricolages, la confection d'accessoires et de produits de beauté. Je ne peux pas croire qu'on reste encore campé là-dedans, déplore Mme Fortier. L'idée qu'on attribue encore des loisirs propres à des gens, c'est décourageant. La directrice générale de Camp Académie, Chantal Calais, assume pleinement le choix de l'entreprise d'offrir des camps exclusifs à chacun des sexes. C'est vraiment juste pour répondre à une demande des enfants et des parents, explique Mme Calais. C'est sûr que nos filles aiment ça jouer dehors et tout ça, ajoute-t-elle. Mais quand on regarde en général, les filles aiment ça beaucoup, par exemple, faire des créations de bijoux pendant que les garçons aiment ça un peu moins. Et parlant de printemps, eh bien, on annonce, et on le sait, peut-être que vous le savez déjà, qu'en fin de semaine, on avance l'heure. Alors, n'oubliez pas, il va faire clair plus tard, mais on va perdre 1 heure de sommeil. On va quand même survivre à cela. Restez des nôtres, la suite de l'émission avec entre autres les actualités culturelles après la chanson.
Ce parfum que le vent dépêche, on dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer l'indocile. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en. Mon cœur est un pendule. Mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre. Mon cœur sous le ciel noir de cendre. Oh Ginger, la montagne vacille. Oh Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours enfin, cours, allez, vas-y. Que l'enfer entier est à notre route. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelque part, non, ne te retourne pas. Rien, vite, suis-moi, mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh, Ginger, le sol se nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. Mon cœur, l'espoir nous fait un signe. Oh Ginger, nous serons loin d'ici. Dans une heure, si tu le veux, saute. Allez, vas-y.
Chatterton, Ginger, tiré de leur dernier album, qui vient juste de sortir, c'est tout chaud.
Actualité culturelle, allons-y donc avec quelques suggestions sorties. Le Festival international des films sur l'art. Jusqu'au 18 mars, les amateurs de films sur l'art seront comblés dans plusieurs lieux de Montréal ainsi qu'à Québec. On pourra voir des films sur l'architecture, l'art contemporain, la littérature, la musique, la danse et plus encore. Aujourd'hui, Becoming Cary Grant, Focus Iron, parlera de l'audace au premier plan. Demain, Frida Kahlo, Diego Rivera traitera de la passion dévorante et dimanche, Modernité abordera l'architecture de Raj Rival. Et si vous voulez avoir toutes les informations sur la programmation, www.artfifa.com. FIFEM, un festival pour les enfants jusqu'à dimanche dans le cadre du FIFEM, le cinéma Beaubien présente encore plusieurs films dans la forêt enchantée Oukibouki pour les 3 ans et plus, Juste pour l'été 11 ans et plus, Les As de la jungle 4 ans et plus, Le Petit Spirou 5 ans et plus, Alice et Trigger 6 ans et plus, La cabane à histoire pour les 2 ans et plus, etc. Consultez le site pour l'horaire, coût unique 9 $, www.fifem.com. Festival Filministe. Jusqu'à demain, ce nouveau festival nous propose des films féministes ou Art Gang Plaza. Pour la programmation, consultez le site festivalfilministe.com. Et je poursuis maintenant jusqu'au 18 mars à l'Éco-Musée du Fiermonde. On peut voir l'exposition d'un œil différent, un événement culturel tenu annuellement lors de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. On pourra voir les œuvres de 200 artistes et performeurs ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, entrée 8 $ et pour plus d'informations, www.ecomusee.qc.ca. De la tire. Alors, si vous avez envie de manger de la tire d'érable dimanche de 13h à 17h, à la Maison Saint-Gabriel, on pourra déguster de la tire sur neige et entendre les conteurs Francis Desilets, Éric Michaud, Alexis Roy et Marc-André Fortin, accompagnés de la violoniste Marie-Neige Lavigne. Pour la famille, 30 $, bouchée de tire, 5 $. Denis Arcand change le titre de son prochain film, Le triomphe de l'argent devient La chute de l'Empire américain. Le prochain film de Denis Arcand change de titre. Le long métrage, dont la sortie est prévue pour le 28 juin, était connu jusqu'ici sous le titre de Le triomphe de l'argent. Le nouveau titre rappelle celui du déclin de l'Empire américain qui lui avait valu, dis-je bien, une nomination aux Oscars en 1987. La chute de l'Empire américain raconte l'histoire de Pierre-Paul Daou, célibataire et solitaire, qui détient un doctorat en philosophie de McGill. En allant livrer un colis dans une pseudo-boutique de vêtements pour femmes, il tombe sur une scène de vol à main armée qui a mal tourné. 2 morts. Il se retrouve devant 2 sacs de sport remplis de billets de banque. Il est alors aux prises avec un dilemme. Partir avec les sacs d'argent ou pas? En entrevue à l'émission radiophonique de Paul Arcand jeudi matin, le cinéaste a expliqué que le titre initial ne correspondait plus à ce qu'il avait tourné. Il a également ajouté que la chute du titre signifie simplement parler de notre époque, parler du temps dans lequel on vit en ce moment. La chute de l'Empire américain mettra en vedette Alexandre Landry, Louis Morissette, Marie-Pierre Morin, Rémi Girard, Maxime Roy, Pierre Curzi et Florence Lompré. Je fais des films en essayant, à ma façon, d'obéir à la consigne séculaire, tendre un miroir à la vie et au temps. L'actrice Geneviève Bugeaud se retrouve parmi les lauréats des prix du gouverneur général pour les arts du spectacle. Les prix décernés chaque année depuis 1992 visent à récompenser l'ensemble de la carrière d'un artiste canadien. La liste des artistes récompensés cette année, dévoilée jeudi matin, compte également un producteur de théâtre, une pianiste renommée, une chorégraphe, un auteur-compositeur-interprète et le président du Centre national des arts, CNA d'Ottawa. Geneviève Bugeaud compte 50 ans de carrière et 70 films. Elle a joué en français et en anglais pour des cinéastes canadiens et étrangers. Un prix qui porte son nom est décerné chaque année à une jeune actrice espoir du cinéma québécois. Angela Hewitt est pianiste concertiste. Elle est considérée comme l'une des grandes interprètes de Bach. Ça vous donne une mémoire phénoménale parce qu'apprendre du Bach par cœur est à peu près la chose la plus difficile à faire, confiait-elle au journal The Guardian l'an dernier. Andrew Alexander est producteur de théâtre. Il dirige The Second City, qui a donné naissance à l'émission télévisée SCTV. De là ont émergé plusieurs comédiens spécialisés en improvisation et en humour et qui ont fait carrière au Canada et aux États-Unis. Ginette Lorrain est danseuse et chorégraphe. Pionnière de la danse contemporaine au Québec, elle a fondé et dirigé la compagnie de danse Au Vertigo, où elle a œuvré pendant plus de 30 ans. Murray McLaughlin est auteur-compositeur-interprète, connu au Canada anglais pour ses chansons de style country folk depuis les années 70. Il a récolté 11 prix Juno tout au long de sa carrière, le premier en 1972 pour sa chanson « Farmer's Song ». Peter A. Erndorf est président et chef de la direction du Centre national des arts d'Ottawa depuis 1999. Il prend sa retraite en juin prochain. Il compte parmi ses réalisations la création du théâtre autochtone du CNA. Le jour du départ à la retraite de M. Erndorf, le 2 juin, aura lieu le gala des prix du gouverneur général pour les arts du spectacle au CNA à Ottawa. Les 6 lauréats seront alors honorés et on présentera des courts-métrages produits par l'Office national du film du Canada pour illustrer leur carrière. Avec la collaboration de Téléfilm Canada, Éléphant, organisme voué à la restauration de longs métrages du cinéma québécois, vient de terminer le sous-titrage de 50 titres qui seront mis en location sur iTunes. Le lancement officiel de ce projet aura lieu le 15 mars à la Cinémathèque nationale de Mexico, avec Marie-Josée Raymond et Claude Fournier, les deux dirigeants d'Éléphant. L'événement sera souligné par la projection de 3 grands classiques du cinéma québécois. La mort d'un bûcheron de Gilles Carle en présence de Carole Laure et Louis Fury, Réjeanne Padovani de Denis Arcan et les ordres de Michel Brault. Selon Éléphant, cette entrée dans le monde hispanophone permettra de joindre 400 millions de personnes dans 21 pays. Et c'est dimanche à 20h que seront diffusés à la CBC les prix Écran canadien qui récompensent les artisans du cinéma, de la télé et des médias numériques. Côté cinéma, 11 des 15 films les plus cités sont des productions québécoises. On surveillera ainsi les performances d'Hochelaga, Terre des âmes de François Girard, 8 sélections, de La petite fille qui aimait trop les allumettes de Simon Lavoie, 7 sélections, ainsi que de C'est le cœur qui meurt en dernier d'Alexis Durand-Brault, Les Rois mongols de Luc Picard et All You Can Eat Buddha de Yann Lagarde, 6 sélections chacun. Le grand favori en provenance du Canada anglais, Maudie, film très touchant d'Isling Wash, portant sur la peintre néo-écossaise Maud Lewis, a de son côté récolté 7 sélections. Marie-Mé quitte Production J. Véronique Lauzon, qui écrit ce texte, la chanteuse Marie-Mé n'a pas renouvelé son contrat avec Production J, a appris la presse. Agent libre, elle cherche activement la compagnie de production qui gérera sa carrière et lancera son prochain album. L'auteur-compositrice-interprète a choisi de quitter la maison de production avec qui elle était depuis sa sortie de Star Academy en 2003. La boîte de Julie Snyder s'occupait de sa gérance et de ses spectacles. Au début de l'année, alors que son contrat était échu, elle leur a annoncé qu'elle ne le renouvellerait pas. C'est aussi simple que ça, a expliqué Junior Bombardier, relationniste de Marie-Mé. Elle n'a pas encore signé avec une autre maison de disques, elle en rencontre plusieurs avant de prendre une décision. Junior Bombardier mentionne également qu'aucun contrat de disque ne la retient à Musicor, avec qui elle a vendu plus de 400 000 exemplaires de ses 5 albums. Actuellement, elle est libre autant du côté du spectacle que du disque, ajoute le relationniste de chez Roy et Turner. Production J a confirmé la nouvelle à la presse. Nous souhaitons tout le succès à Marie. Nous l'aimons beaucoup et nous savons qu'elle a du talent. Nous avons quand même réalisé de belles choses avec elle, a mentionné Louis Noël, directeur exécutif. Il rappelle que l'artiste a rempli le Centre Bell à 12 reprises, et a remporté 10 Félix. Plus de 1,5 million de spectateurs ont vu Marie-Mé en spectacle, soit en salle ou lors d'un festival.
chanson de son album Plaza, Simon Kingsbury nous chantait Tuer la bête.
Et c'est parti avec les Jeux paralympiques, avec la cérémonie d'ouverture. D'ailleurs, mon collègue Kevin Breton, qui anime Au Signal, en parlera à son émission. Il y aura des capsules au quotidien sur nos ondes à ne pas manquer. Et Kevin recevait en janvier Sandrine Hamel. Vous pouvez d'ailleurs écouter cette émission si vous allez sur notre page Facebook, mais surtout dans notre site Internet à Canal M de Vues et Voix. Vous allez sur la page de l'émission Au Signal de Kevin pour trouver cette entrevue. Et aujourd'hui, il en est question dans la presse. On parle bien sûr du porte-drapeau du Canada, Brian McKeever, qui était là à la cérémonie d'ouverture, et Sandrine Hamel, l'invitée surprise, un texte de Michel Marois. Quand j'étais jeune, je regardais les Jeux olympiques à la télé, je me disais, si je n'avais pas eu mon handicap, c'est sûr que j'aurais pu aller aux Jeux. Aujourd'hui, j'y vais quand même. Sandrine Hamel était encore sur un nuage il y a quelques jours lors de la présentation des athlètes sélectionnés par Snowboard Canada pour aller aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Elle avait obtenu ses premiers bons résultats cette saison en Coupe du monde et ses proches lui disaient que ses chances étaient bonnes. « On n'est jamais certaine de rien », rappelle-t-elle. « J'ai donc vraiment été contente il y a quelques jours quand j'ai reçu la confirmation. C'est vraiment un honneur d'aller représenter mon pays aux Jeux. » Sandrine est née avec une double scoliose. Ça veut dire que ma colonne vertébrale a la forme d'un S. Quand j'étais enfant, j'ai eu une opération corrective qui a mal tourné et mes jambes sont restées paralysées. Avec beaucoup de physiothérapie, j'ai pu apprendre à marcher. Aujourd'hui, toutefois, ma jambe droite est encore très faible et ma scoliose affecte ma posture de façon significative, mais ça ne m'empêche pas de participer aux compétitions de parasnowboard. C'est à 8 ans que Sandrine a découvert ce sport. C'est tellement excitant, insiste-t-elle. En haut d'une piste, je ressens toujours un mélange de peur et de fébrilité avant de m'élancer. Et quand j'arrive en bas, c'est à la fois un soulagement et un moment de pure euphorie. Ces sentiments sont évidemment encore plus forts en compétition. Plonger, comme je l'ai fait dans le surf des neiges, a sûrement été l'une des meilleures décisions de ma vie. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir la chance de pratiquer ce sport et, malgré les obstacles que je dois surmonter chaque jour, de pouvoir atteindre mes objectifs. On devine qu'un tel parcours ne vient pas sans son lot de frustration. Sandrine aime ainsi pratiquer la boxe, pour garder la forme, bien sûr, mais aussi pour laisser s'échapper le trop-plein d'émotions. « Mon dicton est « garde la tête haute et sois patiente », rappelle-t-elle. « C'est ce que j'ai toujours voulu faire et je suis fière de voir que cela m'a amenée jusqu'ici. » Le parasnowboard est une discipline toute nouvelle et il n'y a encore qu'une poignée d'athlètes qui le pratiquent au Québec. On l'a rajouté récemment au programme des Jeux paralympiques, mais c'est un sport qui se développe rapidement, explique l'athlète de 20 ans. J'espère que ma présence à Pyeongchang va en encourager d'autres à tenter l'expérience. Et Sandrine n'entend pas s'arrêter là dans la promotion du sport. Elle terminera bientôt ses études collégiales et voudrait poursuivre une formation universitaire en psychologie. J'aimerais éventuellement me spécialiser en psychologie du sport. Ce serait bien de pouvoir travailler encore avec des athlètes, les aider à surmonter leurs peurs et à atteindre leurs objectifs. Avec sa détermination, sa force de caractère et son parcours si inspirant, Sandrine Hamel sera bien placée pour aider un jour d'autres champions. En attendant, laissons-la réaliser ses propres exploits sur les pentes en vivant ces moments grisants qui lui procurent tant de satisfaction. Curling en fauteuil roulant, les Canadiens encore favoris. La 6e et dernière discipline au programme des Jeux paralympiques de Pyeongchang est le curling en fauteuil roulant. Comme aux Jeux olympiques, le Canada a une longue tradition de succès dans cette discipline. Mais la formation canadienne ne voudra sûrement pas imiter les équipes olympiques masculines et féminines rentrées bredouilles de la Corée du Sud il y a quelques jours. Le skip Mark Idason était déjà à Sochi en 2014 pour le 3e titre consécutif du Canada. Il sera appuyé par Ina Forrest, 3e, Dennis Thiessen, second, et Marie Wright, première. Les règles du curling en fauteuil roulant sont sensiblement les mêmes que le curling régulier, sauf que les joueurs utilisent une tige pour lancer la pierre et qu'il n'y a pas de balayage. Chaque équipe doit compter au moins une femme. Rattrapage nécrologique au New York Times pour la Journée internationale des femmes. Le quotidien rend hommage à 15 grandes oubliées de ses pages. Le New York Times a réparé une injustice en publiant jeudi la nécrologie de 15 femmes célèbres que le quotidien américain n'avait pas pris la peine de diffuser à leur mort pour célébrer la Journée internationale des femmes. La romancière britannique Charlotte Brontë, 1855, la poétesse américaine Sylvia Plath, 1963, devenue une icône du féminisme, ou encore la photographe Diane Arbus, 1971, font partie de ces célébrités qui avaient été négligées par le grand journal new-yorkais. Depuis 1851, les nécrologies du New York Times sont dominées par les hommes blancs. Aujourd'hui, nous ajoutons les histoires de 15 femmes remarquables à expliquer le quotidien. La vaste majorité des personnalités publiées dans cette rubrique étaient des hommes en majorité blancs. Mais ces deux dernières années, environ une sur cinq était une femme, a précisé le journal, soulignant que la sous-rubrique « négligée » entre guillemets reviendrait régulièrement. Outre Brontë, Plath et Arbus, le Times a publié jeudi celle de 12 autres femmes dans son édition Internet. On compte Ida Wells, une journaliste noire qui a fait campagne contre les lynchages de Noirs dans le sud des États-Unis au début du 20e siècle, la poétesse chinoise féministe et révolutionnaire Qiu Jin, Mary Ewing Otterbridge, qui aurait introduit le tennis aux États-Unis dans les années 1870, et Madhubala, légende de Bollywood, dont le destin reflétait celui de Marilyn Monroe. Apprendre le style avec Louise Labrec, c'est Olivia Lévy qui signe l'article. La styliste Louise Labrec présente une série d'ateliers sur le style, la mode, les couleurs et l'art de vivre. Trouvez votre style, votre garde-robe de rêve, quelles sont vos couleurs, avoir une garde-robe plus jeune sont les thèmes des différents ateliers présentés à partir du 17 mars. Je n'ai rien à me mettre, c'est ce qu'on dit beaucoup trop souvent le matin devant la montagne de vêtements qui dépasse de notre garde-robe. C'est pour cette raison que la styliste et auteure du livre « Avec style » a décidé de donner des conseils aux femmes qui ne savent plus comment organiser, choisir et agencer leurs vêtements. Les femmes en ont assez de se faire mal conseiller, elles veulent apprendre à bien s'habiller selon leur histoire et leur style. Avec ces ateliers, je leur donne des outils pour qu'elles puissent devenir leur propre styliste, explique Louise Labrec. « Comment puis-je faire pour intégrer de la couleur dans ma garde-robe ?» est la question qu'on lui pose le plus souvent. Les femmes n'osent pas mettre des couleurs alors que ça donne de l'éclat. Elles portent trop de noir même si elles ont envie d'aller vers des couleurs vives. Il faut prendre plus de risques. La styliste voit aussi trop souvent des garde-robes déséquilibrées, où il y a trop de vêtements de base ou trop de vêtements de fantaisie. Résultat, soit le style est ennuyeux et on a l'impression de toujours porter la même chose, soit les femmes achètent par coup de cœur et aucune pièce ne peut s'agencer avec une autre. Les ateliers de Louise Labrec sont présentés à Montréal au Loft 101, 101 rue Louvain-Ouest, coût 150 $. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle fin de semaine. N'oubliez pas d'avancer l'heure. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Bonne fin de semaine à vous Mathieu. À bientôt.